Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'heure du crime avec Perrine Suquet, avec Margot Agnès. Aujourd'hui, c'est Philippe Duval qui est à la technique de l'heure du crime. Et vous l'avez entendu à la une, la véritable histoire de l'un des pires criminels que la Belgique ait connu, et je précise, l'un des pires criminels du XXe siècle. Le pire, avant Marc Dutroux peut-être, mais ça, on en parlera dans un petit instant. En tout cas, cet homme, Nestor Pirotte, qui est très peu connu en dehors des frontières belges et qui porte un nom de roman ou un nom de bande dessinée, était vraiment un personnage peu recommandable. Nous allons avec mes invités dans un instant revenir sur un parcours sanglant, sept meurtres vraisemblablement, nous arrêter aussi sur une question, car cet homme a bénéficié de façon incroyable tout au long de son parcours criminel des failles de la justice belge. Alors y a-t-il un avant et un après Nestor Pirotte de ce côté-là? Eh bien, ça fait partie des questions que je poserai tout à l'heure. Donc à mes invités qui sont en studio depuis nos confrères de Bell RTL à Bruxelles, Marc Met de Penningen qui est journaliste au quotidien belge Le Soir, spécialiste des affaires de police et de justice et qui intervient régulièrement dans l'heure du crime. Christian De Vroom également, ancien commissaire général de la police judiciaire nationale belge, c'est-à-dire l'ancien patron de la PJ belge, qui est aussi l'ancien chef de la section criminelle de Bruxelles. Et Christian De Vroom fut au cœur de nombre, bien sûr, d'affaires criminelles tout au long d'une carrière qui s'étend sur une bonne quarantaine d'années. Il a d'ailleurs publié un livre de souvenirs, Secrets d'enquête, l'avenir de nos polices, le récit de 40 années de terrain et de réflexion, également paru aux éditions de l'Arbre. Et puis, pour être complet dans ce sommaire, à 14h45, nous aurons en ligne Maître Julien Pierre. Maître Julien Pierre est avocat au barreau de Liège et il a été le dernier avocat de Nestor Pirotte. Alors, avant de donner la parole à mes invités, et pour prendre tout de suite la mesure ou la démesure du personnage, on va entendre ensemble un document d'archives diffusé quelques jours après la mort de Nestor Pirotte derrière les barreaux de la prison où il purgeait une ultime peine de réclusion à perpétuité. Il est mort en fait d'une crise cardiaque dans sa cellule. La nouvelle a été rendue publique le 1er août et ce jour-là, la journaliste Christine Calmo rappelait sur RTL TVI, le sanglant parcours de celui qui reste, on le disait tout à l'heure, l'un des plus grands criminels de l'histoire de la Belgique.
Lors de la reconstitution du meurtre d'un antiquaire bruxellois dans les bois de Tigny en 84, Nestor Pirotte a 51 ans, un sinistre palmarès à son actif. « Vous êtes l'enfer », lui avait dit l'avocat des parties civiles aux assises du Brabant, quand le plus célèbre détenu belge est condamné à mort pour la seconde fois. Né à Namur en 33, Nestor Pirotte tue pour la première fois en 54 sa tante. Elle refusait de lui payer un vélomoteur. Il la massacre à coups de hache. Première condamnation à mort, commuée en travaux forcés à perpétuité. Après 13 ans derrière les barreaux, il est libéré sous condition en 68. Moins d'un mois plus tard, deuxième meurtre, le gérant d'une banque à Genval. Les psychiatres le déclarent irresponsable. Il échappe aux assises et est interné, à nouveau libéré sous condition en mai 80. Encore une fois, moins d'une année plus tard, en novembre, il est arrêté pour un quadruple meurtre, l'affaire de la vieille France à Spa. Le Namurois bénéficiera d'un non-lieu, faute de preuves. En 81, Pirotte s'échappe du centre de détention de PEF, le mois suivant, dernier meurtre, celui de l'antiquaire. En 87, il purge ses peines à la prison de Lantin, dans un quartier haute sécurité, le bloc U, et se plaint de ses conditions de détention. Son avocat de l'époque, Julien Pierre, porte plainte et obtient gain de cause. En 92, il tente encore de s'évader. Incarcéré à la prison de Jamiou, il avait demandé sa libération conditionnelle il y a quelques mois, sans l'obtenir cette fois.
Voilà, donc un rappel des exploits, avec tous les guillemets de rigueur, les exploits criminels de cet homme à qui nous consacrons cette émission avec mes invités. Et ma première question est pour vous, monsieur Christian De Vroom. Donc je rappelle, ancien patron de la PJ belge, et à l'époque où sévissait Nestor Pirotte, vous étiez, je crois, chef de la section criminelle de Bruxelles. on a entendu dans le papier de la journaliste là, vous êtes l'enfer sur la terre. Il a vraiment incarné le mal absolu, cet homme-là. Et pour vous, policier, un des plus grands criminels.
Probablement, Monsieur Pradel, qu'il s'agit d'un des plus grands criminels lorsqu'on aligne un palmarès tel que celui-là, avec des homicides qui ont suivi une libération presque immédiatement. Ouais. Il est évident qu'on se pose dans le milieu des grands criminels connus en Belgique. Toutefois, il y a eu d'autres grands criminels en Belgique. Je ne vous rappellerai pas l'affaire Dutroux, qui a été beaucoup plus émotionnelle que Pirotte. Pirotte est passé presque, je dirais, inconnu pour le public.
Absolument.
Par contre, il y a eu la veuve Becker en 1936, qui a 11 homicides à sa charge par empoisonnement. Donc, on a eu quelques criminels pas aussi en série, pas aussi importants qu'aux États-Unis. Mais Pirotte est évidemment l'un de ceux qui attirent le plus l'attention. Et je me rappelle toujours, en 1981, lorsqu'il s'est évadé de la panique qui a régné dans nos couloirs pour essayer de le rattraper, parce que là, évidemment, le public s'est inquiété de se demander pourquoi on libérait si vite des gens aussi dangereux. Il y a, je le dirais, une faillite de la justice à ce moment-là, qui s'est quand même légèrement améliorée depuis lors suite à l'affaire Dutroux. Il y a une faillite des examens psychiatriques. Pour la simple raison qu'on n'a pas décelé depuis le départ un problème chez Pirotte, parce qu'enfin, pour agir comme ça, il faut avoir des problèmes psychiatriques. Et donc, ces deux faillissements, je dirais, à la fois de la justice, à la fois de la psychiatrie, dans une même affaire, cela fait évidemment beaucoup.
Voilà,
et Pirotte en a profité.
Ouais, on aurait peut-être pu éviter quelques victimes quoi, dans cette affaire. Voilà. Bonjour Marc Maître de Penningen.
Bonjour Jacques.
Et très heureux de vous retrouver au micro de d'RTL et d'RTL et de belle RTL aujourd'hui, vous voyez. Un mot sur ce personnage. Donc j'ai dit tout à l'heure que il avait aussi une personnalité un peu hors norme. On reviendra sur ses qualités de comédien, sur son côté don juan, manipulateur, simulateur. Mais son enfance, parce qu'il y a toujours des clés dans l'enfance de personnages comme celui-là. Ses parents, son père s'appelle Léon, il est garde-chasse du château de Beauchesne. Sa mère est couturière, elle s'appelle Florence de Lavaux. Et la famille vit dans la maison du portier, je crois que c'est comme ça qu'on appelait. Devant le château, la conciergerie, à l'entrée du domaine. Et lui, c'est de là que va naître un rêve d'aristocrate ou d'aristocratie qu'il va traîner tout au long de sa vie, finalement.
Oui, il rêve tout éveillé. C'est un endroit formidable, vraiment magnifique. C'est la vallée de la Molinier. C'est un endroit un peu hors du monde. C'est la nature sauvage. Ce sont les forêts. C'est la chasse. C'est l'hiver qui est très rude. C'est l'été qui est très chaud. On se baigne dans les étangs. Il joue avec les enfants du châtelain. Sa mère.
Qui lui apprennent les bonnes manières, en fait.
Qui lui apprennent les bonnes manières. Il apprend les codes de la noblesse belge. Sa mère, qui est une couturière très profondément, est une femme par ailleurs extrêmement belle et distinguée, qui a fait courir le bruit que son fils, peut-être le Nestor, serait le fils du châtelain, de quelqu'un de la noblesse, n'a jamais démenti cette paternité cachée. Et Nestor s'est inspiré de cet état pour se prendre lui aussi pour le petit noble qu'il n'est pas, mais qui joue avec les enfants du châtelain. Il est mis en appétit de richesse, d'une vie facile. C'est une période particulière aussi. Il naît en 1933. Il a 7 ans quand la guerre se déclenche. La guerre est particulièrement dure dans cette région des Ardennes belges, et il va en ressortir pour plonger dans un monde qui lui est inconnu. Le village où il vit, c'est une petite communauté, c'est 70 personnes environ. Il n'a comme horizon que cette richesse à laquelle il aspire, mais qu'il ne peut pas atteindre pour lui.
Et les psychiatres dont parlait Monsieur De Vroom tout à l'heure, mais on reviendra là-dessus puisqu'ils sont fait berner par lui, quoi, disons-le, à plusieurs reprises tout au long de son parcours criminel. Mais un certain nombre de ces psychiatres ont décelé chez lui une soif de reconnaissance absolument insatiable, de puissance, d'argent. Et en fait, là où sa vie va basculer, c'est que il veut avoir le standing qui va avec le personnage qui s'est inventé. Et et ça commence en fait au service militaire, parce que là, alors, c'est un séducteur de minettes, si j'ose dire, Don Juan de garnison, parce qu'il fait croire à des filles finalement que voilà, elles ont peut-être la chance de fréquenter un aristocrate, ce qui est pas vrai du tout. Il est assez buveur. Et puis, il va avoir besoin d'argent. Qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là au service militaire ?
Ben, il mène également ses camarades, on appelle ça des miliciens, donc c'est les appelés du contingent. Il les mène en bateau aussi. Il prétend être l'héritier d'une grosse fortune. Il joue au poker. Il s'enivre. La bière est à quelques centimes, tous les appelés du contingent connaissent ça à ces époques-là. Et pour finir, il croit un jour qu'il s'est fait berner, qu'il s'est fait spolier par quelques-uns de ses amis de chambrée, qu'il va lui-même voler, qu'il va passer à tabac, et ça lui vaut une condamnation à 3 mois de détention prononcée par la justice militaire. Ouais. Justice militaire qui, à cette époque-là, est particulièrement sévère. On est dans l'après-guerre, l'immédiat après-guerre.
C'est sa première condamnation.
C'est sa première condamnation. Il met le pied à l'étrier de la délinquance. Il découvre que voler, c'est facile. Et quelque part, voler, ça n'apporte pas énormément de conséquences, vu qu'il restait consigné en sa caserne. Pour lui, ça ne change rien.
Voilà. Alors, où aller chercher l'argent? C'est dans la poche de ceux qui en ont. Et on va en parler dans un instant avec vous, bien sûr, toujours, avec aussi Christian de Vaume. Là, c'est le policier. On va revenir aux enquêtes, parce que le premier meurtre de Nestor Pirotz a lieu le 20 avril 1954. Il a 21 ans et il va tuer dans des conditions vraiment ignobles, sur lesquelles nous allons revenir, sa tante, pour lui voler de l'argent. À tout de suite.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL.
L'heure du crime.
Et à la une de l'heure du crime aujourd'hui, Nestor Pirotz, faux aristo, mais vrai tueur, c'est ce que nous disent depuis tout à l'heure mes invités, Marc Maître de Penningen du journal Le Soir, Christian de Vroom, ancien commissaire général de la police judiciaire nationale belge, et je rappelle que tout à l'heure, vers 15h45, quand on essaiera d'affiner un peu le portrait de Nestor Pirotz, nous aurons en ligne Maître Julien Plaire, donc avocat au barreau de Liège, qui a été le dernier avocat de Nestor Pirotz. Alors, je reviens à vous, monsieur de Vroom, maintenant, parce que c'est le premier meurtre. Alors évidemment, on peut pas le savoir à l'époque, mais c'est le premier meurtre d'une série. C'est bel et bien un tueur en série qui va, pour la première fois, passer à l'acte. Et il va le faire alors qu'il a à peine 21 ans. En choisissant sa victime dans son entourage proche, puisque il s'agit, je crois, de sa grand-tante, une femme qui possède du bétail, et je crois qu'il a appris que elle venait de vendre bon nombre de ses bêtes, et il s'est dit elle a de l'argent.
C'est tout à fait exact. En fait, pour se défendre, qu'a fait Nestor Pirotz, il a dit que cette femme, cette grand-tante, avait insulté sa mère, avait harcelé sa mère, etc. Lors du procès, le premier procès qu'il a eu, il avait pris cette défense. Il a toujours pris une défense où il se faisait passer plus pour une victime qu'autre chose. Ouais. Mais je me permets aussi de vous rappeler une affaire plus récente, qui est à cheval entre la France et la Belgique, c'est l'affaire Michel Fourniret.
Oui, bien sûr.
Fourniret avait également ses idées de grandeur, puisque la première chose qu'il a fait quand il a volé de l'or à des complices, il a acheté un château. Ici, on se trouve en présence de Nestor Pirotz, qui, lui, dans sa psychologie, comme l'a dit Marc, se fait passer pour un noble. Je l'ai rencontré, moi, à sa dernière arrestation, lorsque Frédéric Godefroy l'a arrêté. Je l'ai rencontré, et effectivement,
ça a été chaud, d'ailleurs, comme arrestation.
Et Frédéric Godefroy l'a payé très cher. Je me permettrai d'en parler un peu plus tard.
D'accord.
Disons, quand je l'ai vu, effectivement, il donnait toute cette impression d'être un aristocrate. Et il le prenait de très haut. Moi, il m'a même demandé, vous êtes qui, vous? voilà.
Ouais, je suis juste le patron de l'EPJ.
C'est juste en passant.
Non, mais alors, il y a ça, je suis d'accord avec vous, mais Marc, Maître de Penningen, là, si on reprend juste les faits, on est dans l'abjection totale, parce qu'on est le 20 avril 54, il s'introduit chez cette grand-tante qu'il pense riche, parce qu'elle a dû vendre des bêtes, et à la main, il a une barre de fer. guerre.
Tout à fait, il est sous les drapeaux à ce moment-là, il est milicien, donc il s'est payé une Vespa dont il doit payer les traites. Son but, c'est simplement de profiter de ses permissions, de faire la tournée des bals de village des alentours pour aller draguer les jeunes filles qui croient qu'il est l'aristocrate, le fils du châtelain, etc. Il part en repérage dans ce petit village de Septon où vit sa tante. Sa grande tante, pardon, et il l'observe, il revient plusieurs fois l'observer, il est en repérage, ça va lui être fatal à son procès, bien évidemment. Le garde champêtre lui-même l'interpelle un jour en lui disant, fais attention, tu pourrais être considéré comme responsable de tout ce qui se passera.
Si se passe quelque chose, absolument.
Exactement, et il passe pour finir à l'action, il se saisit d'une hache, il achève sa tente dans une étable, on retrouve le corps deux jours plus tard, les poules sont en train de picorer la cervelle de la malheureuse, ça fait un émoi considérable dans cette petite région tranquille, et Nestor Pirotte, bien évidemment, est désigné comme l'auteur des faits, le principal suspect, par le témoignage du garde champêtre.
Oui, il est soupçonné très vite et arrêté très vite, et évidemment bon, l'acte est ignoble, va frapper évidemment beaucoup l'opinion. Et alors, c'est là où on parlait là des problèmes, des faillites, de la faillite du système judiciaire belge. Ça va commencer là parce que là, il va être condamné à la peine capitale, mais la peine
pas
capitale.
Encore, hein.
Non
pas...
Ah bon ?
Non, c'est-à-dire que là, comme il est sous les drapeaux, il dépend de la justice militaire.
Ah d'accord.
Et là, les psychiatres n'interviennent pas ou quasiment pas. C'est une justice qui se rend quasiment dans les casernes, très discrète. L'armée n'aime pas d'exposer ses éléments défaillants. Son procès est expédié en une journée. Lui refuse d'ailleurs de parler.
Oui, et donc, enfin, il est quand même condamné à la peine de mort.
Il est condamné à la peine de mort.
Voilà,
tout
en octobre 55, c'est bien ça quand même.
Tout à fait.
Voilà. Mais la peine de mort n'est plus appliquée en Belgique. Alors, ça va être commuté en détention à vie.
Oui.
Et c'est là où, en fait, dès qu'il est incarcéré, il n'aura de cesse que d'essayer de partir, de s'évader ou de quitter cette prison, ces quatre murs. Et c'est là où il commence à simuler la folie.
Tout à fait. Et ça, par simple calcul, je dis une peine de mort prononcée contre un militaire à cette époque, ça équivaut à un minimum de 18 ans de détention. Il sait que jouer le fou devant les psychiatres, ça peut le faire sortir après 3 mois, après 6 mois, donc après chaque réexamen de son cas par les psychiatres. Donc il joue ce coup-là. Il va tenter de se faire passer pour fou. Il va prétendre avoir une vie sexuelle débridée et anormale. Comme il le dit lui-même, il va faire des tentatives de suicide. Il agresse des co-détenus. Et pour finir, tout cela finit par porter, malgré que le premier psychiatre commis à son examen, dit qu'il ment, qu'il simule manifestement la folie.
Alors,
d'autres de ses collègues seront d'un avis contraire et donc il est expédié
aux marronniers,
les marronniers, c'est ça.
C'est un centre de soins psychiatriques, ou alors, et là c'est la folie parce qu'on parlait, au sens propre du terme, on parlait tout à l'heure de ce talent de manipulateur, de comédien, il va quand même réussir à tromper, à séduire le propre directeur de l'établissement dans lequel il est non pas incarcéré, il est soigné, quoi, en fait.
Il est accueilli, oui.
Hein, il est accueilli pour... Et il va y rester 14 ans, quand même, quoi. Voilà. Alors, on va reprendre dans un instant le récit de ces meurtres en série, parce que 14 ans après cette condamnation à mort, il va sortir de prison, et là... Mais 2 mois après sa libération, il va sortir en conditionnel. Hein. 2 mois après, il va se faire passer pour un aristocrate qui a des projets mirifiques. Et pour cela, il lui faut une banque. Alors, il va la trouver, la banque, et il va tuer le banquier. On va vous dire comment dans un instant.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Et aujourd'hui, vous avez RTL deux fois. Belle RTL à Bruxelles qui accueille dans ses studios Marc Met de Penningen, qui est journaliste au quotidien Le Soir, et Christian De Vroom, ancien commissaire général de la police judiciaire nationale belge. Tous les deux nous racontent, nous éclairent sur le parcours sanglant, incroyable également, sur la personnalité étrange de ce tueur en série qui fut l'un des pires que la Belgique ait jamais connu et qui s'appelait s'appelait Nestor Pirotte. On peut dire qu'il s'appelait Nestor Pirotte, puisque je l'ai dit au début de l'émission, il est mort à l'âge de 67 ans d'une crise cardiaque dans sa cellule, parce qu'en fait, il a fait quand même, il aura passé, là je ne sais pas qui va nous raconter la suite de ses exploits, c'est-à-dire cette affaire de banquier où il se présente sous l'identité d'un aristocrate, il aura passé 40 ans de sa vie en prison finalement. À chaque fois, il a de longues incarcérations.
Oui, au total, je pense qu'il a dû être, depuis sa majorité civile, donc à l'âge de 21 ans à l'époque, il a passé une année en liberté, si on totalise l'ensemble de ses périodes de liberté, ce qui est évidemment extrêmement peu.
Ouais. Alors maintenant, le comte de Ribeaucourt. Alors je ne sais pas lequel d'entre vous veut nous raconter l'histoire. En gros, il a besoin d'argent. Hein, il a été on l'a dit tout à l'heure, libéré en conditionnel après 14 ans quand même d'incarcération. Mais il a besoin d'argent et il va aller en chercher à la banque.
Il va se rendre à Genval chez un banquier sous le prétexte de changer une somme de 750 000 francs belges d'argent.
Et c'est là où il se présente sous cette identité, donc.
C'est là où il se présente. Il s'est toujours présenté dans la plupart de ses crimes sous le titre d'un aristocrate connu en Belgique, ouais. Comte de Ribeaucourt ou comte d'autre chose.
De la Riboisière,
etc. Des noms très ronflants. Et évidemment, cela met en confiance ses futures victimes. Ouais. Ici, l'entretien va tourner court puisque Nestor Pirotte sort une arme et tire une balle dans le cœur de ce pauvre banquier qui a 36 ans à l'époque et il s'enfuit avec l'argent. Il sera de nouveau rapidement identifié parce que la caractéristique de Pirotte, contrairement à d'autres tueurs en série, c'est qu'il ne prend pas beaucoup de précautions lors de ses crimes. Et donc, il se fait arrêter assez rapidement après ses crimes. Ouais. Ce qui est caractéristique également des tueurs en série de ce type, c'est, disons, la récidive immédiatement après la libération. Mmh. Et là, il faudrait peut-être en tenir compte. On en a tenu compte. Je ne pense pas que quelqu'un comme Dutroux ou quelqu'un comme Fourniret soit libéré avant leur mort civile. Ouais. Mais je dirais qu'ici, dans le cas de Pirotte, il y a, comme je l'ai dit au début, des failles importantes. Oui. Donc il est de nouveau réarrêté et de nouveau condamné. Voilà, c'est...
Alors non, mais oui, il est condamné, mais alors là, je voudrais poser la question à Christian Devaume, côté police, ça doit être très agaçant pour les policiers, parce que, une fois de plus, là, il a quand même tué d'une balle dans la tête un banquier, il va être considéré comme irresponsable.
Oui, alors est-ce qu'on se trouve devant un manipulateur, comme on l'a déjà dit, puisque le premier psychiatre, dit qu'il est manipulateur, ou est-ce qu'on se trouve devant une véritable personne qui n'a pas toute sa raison Pour ma part, je suis assez sceptique. J'ai été témoin dans une cinquantaine de procès d'assises, y compris en Italie et aux États-Unis. Et chaque fois que j'ai vu apparaître un psychiatre, et s'ils étaient deux, ils disaient souvent le contraire l'un de l'autre. Donc, quand il y a un collège de psychiatres, ça va mieux, mais la psychiatrie n'est pas une science exacte. Et donc, comment savoir si quelqu'un qui parle bien, comme c'était le cas de Nestor Pirotte, qui parle bien, parvient à manipuler, ou s'il est véritablement dans un état de démence. Donc, tout cela est difficile. La question que je me pose, pourquoi une première fois, mais comme a dit Marc, quand on est devant une cour militaire, il ne se soucie pas de savoir si quelqu'un est malade mental ou non, puisque ça ferait quand même du tort à l'armée de dire on a en service un malade mental. Oui, mais sûr, pourquoi se fait-il que par la suite, on le recondamne de nouveau à, disons, une peine, je dirais, entre guillemets, normale. Ouais. Donc, nous avons ici deux poids et deux mesures en face de Nestor Pirotte. Dès le moment où il recommençait ses crimes en sortant de prison et qu'on en était à la première récidive, donc à deux crimes, quand même assez affreux, on peut encore se poser la question, pourquoi l'a-t-on libéré de nouveau ? Donc tout cela sont des questions qu'on peut se poser. La justice est ce qu'elle est, tant que ce soit en France, que ce soit en Belgique, que ce soit en Europe.
Bien sûr, bien sûr.
Mais elle est ce qu'elle est, mais elle a des failles quand même assez sérieuses. C'est ce que j'ai dit lors de la dernière commission du trou. Si vous réformez la police, ce qui s'est fait en Belgique, il faut réformer la justice et il faut réformer le système pénitentiaire.
Parce que c'est un ensemble, évidemment.
C'est un ensemble, ce qui jusqu'à présent ne s'est pas fait.
Alors, voilà. Encore une question, Monsieur Devaume, parce que je profite toujours, moi, de la présence de mes invités quand ils sont là. Est-ce qu'ils ont l'expérience que vous avez? Quand un type comme ça, bon, il est condamné pour un premier meurtre, il va passer 14 ans avant d'être libéré en conditionnel, puis très vite après sa libération, il recommence, et là, il va passer 11 ans dans un hôpital psychiatrique, dont il va sortir au bout de 11 ans. Est-ce que là, la police est avertie? Est-ce que il est suivi, écouté? Est-ce qu'on se dit, ce type est dangereux, il risque de recommencer? Ou, c'est comme ça, il a payé ses dettes et on attend qu'il recommence?
Mais à l'époque, nous avions ce qu'on appelle un bulletin central de signalement. Ce bulletin central de signalement signalait les libérés. Mais ce bulletin central de signalement, qui était un bulletin papier, arrivait dans les services de police avec 3 ou 4 mois de retard. Ça, c'est la première chose. Et vous savez que Pirotte récidivait dans une période très courte, très vite. La deuxième chose, c'est que tout le monde ne lisait pas ce bulletin central de signalement, qui était extrêmement fastidieux. C'est comme si on vous disait de lire le Moniteur belge le bulletin officiel français. On ne lisait pas toujours. Donc,
un bulletin général, il n'y a pas un bulletin d'alerte spécifique sur une personne, quoi.
Non, sauf si au moment de la libération, on dit par exemple à surveiller spécialement ou des choses comme ça. N'oubliez pas non plus qu'à l'époque, M. Pradel, il n'y avait pas les tables d'écoute et il n'y avait pas non plus les recherches ADN, qui sont pour l'instant, pour les policiers, quand même des instruments extrêmement importants dans la recherche de criminels. Évidemment, l'ADN n'intervient que quand le crime est commis. Tandis que la table d'écoute, je suis pratiquement certain que si un Nestor Pirotte était libéré maintenant, il serait immédiatement mis sur écoute.
Oui, bien sûr.
Pour la simple raison que les policiers iraient solliciter le juge d'instruction pour lui demander des écoutes sur Pirotte. Et là, on aurait peut-être appris des choses. Mais l'époque étant qu'elle était, il était difficile, évidemment, de suivre ce personnage.
Ce qui est terrible dans l'histoire Pirotte, d'une manière générale, dans pratiquement tous ses crimes, c'est que sa malheureuse, le malheureux membre de sa famille, là, sa grand-tante, finalement, elle avait pas d'argent. Il est reparti avec une poignée de frambelles, quelques centaines de francs.
Quelques centaines, oui.
Là, il tue ce banquier. Il part. Alors, il y a un peu plus d'argent, mais en fait, il a le temps de s'offrir une montre en or avant de se faire arrêter. Donc, c'est vraiment... On est dans le minable, quoi. Au bout de 11 ans, donc, il va être libéré. Et ça, c'est ce qu'on va raconter dans quelques instants après une nouvelle pause. Là, il a besoin d'argent à nouveau parce qu'il est toujours dans son personnage, évidemment, pour séduire les filles, pour aller boire des verre, pour fréquenter les beaux endroits. Il lui faut une voiture de luxe, il lui faut de l'argent. Alors, il lui reste un peu, je pense, de bien, on va dire, de bien des autres, qu'il utilise pour cela en sortant au bout de 11 ans. Mais il achète aussi un calibre 38 et c'est là où il va mettre au point un nouveau scénario qui, cette fois-ci, va se transformer en meurtre, en quadruple meurtre, je crois. On y vient dans un petit instant.
Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et on est maintenant à la fin de l'année 1979. Tous les rapports de psychiatres de l'institut dans lequel est traité Nestor Pirotte lui sont favorables. Il est une fois de plus libéré, en libération conditionnelle. Il va quitter sa prison pour s'installer, je crois, à Verviers. Et voilà, alors il va se présenter comme un bourgeois rangé des voitures. Mais il va y avoir une découverte terrible, macabre, dans un club privé qui s'appelle la Vieille France. Qui veut me raconter cette affaire-là? Vous, Marc, ou vous, monsieur
Oui, c'est-à-dire quand Nestor Pirotte est libéré, là, il est devenu un criminel endurci. Il le fait savoir autour de lui. Il a la clientèle du côté de Verviers, de tous ses anciens codétenus. Il est devenu quelqu'un de respectable, entre guillemets, dans le milieu criminel. Et donc, il va se lier d'amitié avec Mado, la patronne du club La Vieille France, dans l'endroit bien connu de la région.
C'est quoi? C'est un club? C'est un nightclub ou c'est un restaurant?
C'est un bar, club. Les gens, les notables de la ville s'y retrouvent. C'est pas un endroit.
C'est à Spa, c'est dans la ville de Spa.
À Spa, exactement. Connu pour son circuit de Spa francorchamps. Voilà. Donc. Et là, il commence à fournir cet établissement en matériel IFI. Il est devenu gérant d'une entreprise en électroménager, etc. Et un jour, les gendarmes apprennent la disparition d'un agent de voyage, Monsieur de Sambre, dont on est sans nouvelles. La famille a lancé l'alerte. Il est parti de chez lui en disant qu'il avait un rendez-vous d'affaires. Pas de nouvelles. Il passe, les gendarmes, donc devant la Vieille France, en se disant il a peut-être été là comme à ses habitudes. Et là, il y a un mot dactylographié affiché sur la porte disant pour cause de maladie, je serai absente jusqu'au 10 décembre, ouais. c'est-à-dire une quinzaine de jours. Donc.
Et on découvrira plus tard que c'est Nestor Pilote voilà. qui a écrit ce mot. Hein.
Et le 11 décembre, les gendarmes forcent la porte, découvrent le corps de Mado, d'une deuxième personne, ainsi que le corps du disparu, Monsieur de Sambre, et celui du petit chien qui est abattu à l'étage.
Et il manque quelqu'un encore, hein, je crois.
Oui,
et alors, un jeune homme.
Il y a le fils de Mado, hein, qui s'appelle Pascal voilà. Lyrix, lui dont le corps sera retrouvé un mois plus tard dans le donjon dans le château du château qui était proche donc du domicile de Nestor Pirotte.
D'accord. Alors là monsieur De Faume, là il faut nous expliquer parce que c'est un peu le mystère à la chambre jaune vraisemblablement le crime remonte au 26 novembre hein, d'après les autopsies comment Pirotte est impliqué dans cette affaire-là?
Mais Pirotte est impliqué dans cette affaire parce qu'on retrouve le dernier client qui s'est présenté dans cet établissement, c'est Nestor. Il avait également ses habitudes dans ce bar, restaurant, café, qui était assez mal famé, mais mal exploité. Oui. Et il fournissait, des appareils de sonorisation, étant donné son statut à Verviers, qui ne se trouve pas très loin de ce bar, étant donné son statut de revendeur d'appareils électroménagers.
Ouais, c'est là où il va avouer que le 26 novembre, il a effectivement livré du matériel.
Voilà, c'est ce qu'il dit. D'autre part, la feuille dont Marc a parlé, qui était, apposée sur la porte en disant que l'établissement était fermé et sur lequel il y avait une signature de soi-disant Mado, mais qui ne correspondait pas à sa signature, on a retrouvé le même papier chez lui à la maison.
Ah, c'est ça, oui. Donc, un cahier dont les feuilles étaient comparables à la feuille qui était affichée à l'extérieur.
Voilà. Et donc, pour moi, l'enquête n'a pas été bien menée. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. Avoir des aveux de Pirotte qui était devenu un criminel endurci, il ne fallait pas trop y compter. Mais, sur place, même si on n'avait pas les techniques actuelles, comme l'ADN par exemple, et puis même si on avait eu l'ADN, comme Nestor Pirotte était un client de cet établissement, je ne vois pas très bien comment on aurait pu prouver.
Bien sûr. On est en 80.
Il y a quand même énormément d'éléments qui auraient permis de condamner Nestor Pirotte. Vous savez, on parle toujours de capable du fait, mais quand on a affaire à des gens pareils, c'est plus qu'une capacité du fait, c'est pratiquement une certitude qu'il l'est commis.
Mais là, il va être donc, sinon innocenté, en tout cas, il ne sera pas condamné, faute de preuves et faute de témoins.
Oui, là, c'est une réticence
Maître de Penningen,
c'est une réticence absolument scandaleuse de la part de la justice du parquet de Liège, qui connaît l'individu, qui sait qu'il a pu bénéficier donc de détention en milieu psychiatrique, et il y a là comme une espèce d'aveu de ce que l'on s'est trompé, on ne veut pas mettre sous la tête de Pirotte, donc quatre meurtres atroces, on ne veut pas le mettre sous la tête de quelqu'un dont on encourt la responsabilité de la libération.
Voilà, alors on prend une sorte de demi-mesure, c'est-à-dire que il est donc innocenté pour on ne peut pas le mettre, on peut pas le confondre sur l'affaire de ce triple meurtre, mais comme il a rompu les conditions de sa libération conditionnelle, je crois, alors il est quand même réincarcéré.
C'est ça. Donc on utilise, c'est ça qui est aussi scandaleux, on utilise la note de barre où Mado a écrit Nestor 300 francs, c'était la note de barre qu'il avait laissée là-bas, donc il est manifestement passé sur les lieux, et la justice va se servir de cette note pour dire vous avez été dans un endroit de consommation, on boit de l'alcool, etc. Ce n'était pas permis par les conditions de libération conditionnelle, donc on le réincarcère dans un hôpital psychiatrique.
Ouais. Et alors, comment ça se termine puisque il va encore sortir de cet hôpital psychiatrique, il va tenter de s'évader, je crois, en 81. Et non, il s'évade, il tente et il réussit. Il jette une corde.
Après des tentatives,
Ah oui, voilà, ça y est. Et donc c'est là où, M. De Vroom, vous disiez tout à l'heure, ça a créé aussi à plusieurs reprises une psychose quoi, dans le pays, parce que là, on se dit, il y a un type hyper dangereux qui est en roue libre, quoi.
Voilà, il faut savoir...
Il y a des raisons d'avoir peur.
Voilà, en dehors de ce bulletin central de signalement, il faut savoir quand il y a une évasion ou quand il y a une libération de gens aussi dangereux que, je dirais, le tam-tam policier fonctionne. On se téléphone les uns les autres, surtout vers moi qui était à l'époque patron de la section criminelle. On se téléphone pour dire, écoute, bon, il y a Pirotte qui s'est évadé. Dieu sait ce qu'il va encore pouvoir faire. Nous sommes un petit peu, en tant que policiers, et c'est encore le cas actuellement, sommes un petit peu dépendants, évidemment, des décisions de justice. On ne peut pas discuter ces décisions. Bon, ces décisions sont là, il y a une cour d'assises, il y a 12 jurés, il y a une série de choses qui se font, mais cela gêne considérablement le travail de la police, je dois dire, dans certains cas. Ouais. Et dans le cas de Pirotte, c'était vraiment quelque chose où les policiers étaient, je ne dis pas qu'ils étaient effondrés, mais ils étaient extrêmement étonnés disons, des libérations successives de Pirotte, qui auraient dû, je vous le dis très franchement, ce n'est certainement pas, je ne suis pas quelqu'un pour enfermer quelqu'un à vie, bien au contraire, je suis contre, mais lui aurait dû rester en prison sans plus en sortir.
Alors, on va faire une pause dans l'émission, c'est la dernière, bien sûr. On va se retrouver dans un petit instant, et on donnera aussi la parole à maître Julien Pierre, du barreau de Liège, qui a été le dernier avocat de Nestor Pirotte. On va parler du dernier meurtre, celui pour lequel il a été encore une fois condamné à mort, le meurtre d'un antiquaire, et meurtre qu'il a réalisé sous une apparence qu'il avait changée, alors que en fait son portrait, quand même, là c'était pas un portrait robot, son portrait passait à la télévision, dans les journaux, un peu partout. Vous allez nous raconter, Marc Maître de Pénégal, dans un instant, ce dernier meurtre. À tout de suite.
L'heure du crime sur RTL.
Dernière partie de notre émission consacrée à Nestor Pirotte, faux aresto, vrai tueur en série. Dans un instant, nous aurons en ligne maître Julien Pierre du barreau de Liège, qui a été son dernier avocat. Mais auparavant, je reviens vers vous à Bruxelles, Marc Maître de Penningen, pour parler du 7e assassinat de Nestor Pirotte. En fait, donc, il est incarcéré, comme on l'a dit, parce que il n'est pas condamné pour le triple meurtre de ce bar, café, etc., dont on a parlé. Mais qu'est-ce qui va se passer? Combien de temps il reste off avant de tuer sa 7e victime?
Mais il s'évade le 31 août et donc le crime va se produire le 18 septembre. Pendant sa période de liberté forcée, il a fréquenté les antiquaires bruxellois, le quartier du Petit Sablon dans le grand centre de Bruxelles. Et là, il parvient à convaincre un jeune antiquaire de 30 ans, Jean Damsater, de ce qu'il a une vieille mère qui voudrait bien se débarrasser de quelques meubles. Il s'est présenté à lui sous l'identité du comte de Meus, qui est un nom très connu de la noblesse belge. Et un rendez-vous est fixé le 18 septembre.
Et naïvement, il faut bien le dire, tout le jeune antiquaire va accepter un rendez-vous au plus profond d'une forêt. Oui. Ils sont censés ensuite aller à pied vers le château.
Mais pas tout à fait naïf, parce que le sac dans lequel il a mis l'argent, les 12 500 euros qui doivent servir à acheter ses meubles, il va changer ce sac contre un sac rempli de papier journal qu'il confie à un de ses amis.
Donc il se doute un peu de quelque chose, mais il ne pense pas que l'homme va aller jusqu'au meurtre.
Exactement, Nestor Pirotte donc se présente chez lui, dit mon chauffeur, sa Jaguar a eu un accident, c'est pour ça que je viens à pied. Ils embarquent en voiture, ils se rendent dans le bois de l'Auzel, et là, à l'entrée du bois, alors que l'antiquaire est suivi par son ami très discrètement, un coup de feu retentit, l'antiquaire est assassiné, Nestor Pirotte prend la fuite, alors qu'il est reconnu donc par un garde-chasse qui passe par là, par l'ami en question, l'ami en certain monsieur Mao, et donc Nestor Pirotte est identifié une nouvelle fois comme l'auteur d'un crime.
Et il va être arrêté 8 jours plus tard. 8 jours plus tard. Bruxelles, on reviendra avec monsieur De Vroom dans un instant sur les conditions de cette arrestation extrêmement mouvementée et qui a failli coûter la vie aux policiers, à l'un des policiers qui était là. Mais nous allons prendre maintenant, pour compléter le portrait de cet homme et cette capacité incroyable de séduction quand même qui ressort de toutes les histoires qu'on raconte, on va en parler avec maître Julien Pierre. Bonjour maître.
Bonjour monsieur Pradel.
Alors vous qui avez été le dernier avocat de Nestor Pirotte, vous confirmez cette capacité de séduction? Enfin, qu'est-ce qui vous reste de la fréquentation de cet homme?
Écoutez, moi j'ai écouté votre émission et je dois dire que je suis parfaitement d'accord sur toutes les considérations de M. Metteupeningen ou de M. De Vroom, tant sur le plan particulier que sur le plan général d'ailleurs, oui. Plus spécialement en ce qui concerne M. De Vroom sur le fonctionnement de la justice.
Oui.
Ce que moi j'ai retenu, j'ai donc été consulté par lui en août 1987. Et à ce moment-là, Nestor Pirot se trouve incarcéré après une tentative d'évasion de la prison de Forêt, après donc son évasion de Pève et l'assassinat de Darmstadter dont vous venez de parler. Il est au blocus, c'est-à-dire un quartier de haute sécurité de la prison de Lantin sur les hauteurs de Liège. Il me consulte en disant, rendez-vous compte, ce personnage-là, qui a un palmarès, si j'ose dire, judiciaire aussi lourd, il me dit, écoutez, ce quartier de haute sécurité ne me convient pas du tout. Et je vous demande effectivement de lancer une assignation contre l'État belge pour protester contre ces conditions de détention.
Et vous avez gagné. Et vous avez gagné.
Je commence par lui faire observer, mais enfin, écoutez, M. Pirot, admettez quand même qu'un personnage avec votre profil mérite peut-être un quartier de haute sécurité. Et alors, pour répondre précisément et brièvement d'ailleurs à votre question, le souvenir le plus important que j'ai gardé de Nestor Pirot, qui effectivement avait en permanence cette allure aristocratique, même dans ses vêtements de détenu, il avait l'air aristocrate, dans son langage très châtié, très vieille France, si j'ose dire, mais il était effectivement très aristocrate, et ainsi bardé de sa capacité de séduction, le voilà devant le président du tribunal de première instance de Liège, Marcel Trousse, qui est un personnage, un magistrat unanimement apprécié, respecté, expérimenté, et Nestor Pirot lui-même a exposé les conditions de détention au blocus. Et c'est extraordinaire. J'ai gardé de ces quelques minutes, d'ailleurs synthétiques, effectivement une impression fantastique. Quelle extraordinaire leçon de plaidoirie pour un avocat. Il a donc, à lui tout seul, convaincu, je vous assure, à lui tout seul, ne le répétez pas trop, mais à lui tout seul, il a réussi à convaincre le président du tribunal de première instance de Liège, malgré son profil, son passé, de lui donner raison, et effectivement, le président lui a donné raison.
Ah, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir raconté cette anecdote qui montre bien la complexité de ce personnage et le fait que on comprend mieux que un directeur de d'asile psychiatrique ou d'autres se soit laissé finalement embobiner par le personnage et ont cru à ce mythomane qui croyait peut-être un petit peu lui-même d'ailleurs, mais là on va pas entrer dans des circonvolutions psychologiques trop longues. Hein. Je vous remercie beaucoup,
voilà, maître. Mais je vous en prie, monsieur.
Merci.
Voilà,
infiniment.
Félicitations pour votre émission.
Ben merci, merci, on est très heureux. Un dernier mot, il est 57, il nous reste une minute d'émission. On retourne à Bruxelles dans les studios de Bell RTL. Christian De Vroom, d'un mot, l'arrestation de très très mouvementée de Pirot qui est pris au piège quand même après avoir tué cet antiquaire. Il va être cerné par la PJ de Bruxelles et l'un de vos collaborateurs va manquer d'y laisser la vie.
Effectivement, c'est Frédéric Godefroy qui était à l'époque commissaire, qui a eu un tuyau d'un informateur où se trouvait, je pense que c'est Scarbeck si mes souvenirs sont bons, Avenue Milcan, où se trouvait Nestor Pirot. L'intervention, d'après ce qu'il m'a expliqué après, a été extrêmement mouvementée. Pirot s'étant défendu, ayant même exhibé une arme, ils ont dû le maîtriser de manière assez dure pour pouvoir l'amener. C'est alors que moi j'ai rencontré Pirot. Frédéric Fredo, comme on l'appelait, était blessé, légèrement blessé. C'est alors que j'ai rencontré Pirot, qui, était fort hableur, comme vient de le soulever maître Julien Pierre, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration. Et il était fort hableur et il avait dit, s'ils n'avaient pas été aussi nombreux, je me serais enfoui. S'ils avaient que trois flics, je me serais enfoui et ils auraient pu toujours courir. Donc il est resté jusqu'au bout égal à lui-même. Fredo a eu beaucoup d'ennuis par la suite pour la simple raison que Vous savez, quand on travaille avec des informateurs, il faut être très prudent. Il a eu des ennuis personnels judiciaires.
Oui, administratifs et judiciaires. Absolument.
Voilà, il a quitté la police judiciaire et puis il est mort d'un cancer à l'âge de 60 ans. Oui. Mais c'était un excellent policier et c'est, il a permis l'arrestation de Nestor Pirot à ce moment-là, mais par information.
Je vous remercie beaucoup d'avoir évoqué effectivement le souvenir de ce policier qui a vraiment réglé, qui a vraiment risqué sa vie. Merci beaucoup. Merci Marc Maître de Penningen. Je rappelle le titre des mémoires, secrets d'enquête, l'avenir de nos polices, signé Christian Devroom, et qu'on trouve aux éditions de L'Arbre. L'émission est maintenant terminée. On se retrouve avec Flavie Flamand dans quelques secondes.
RTL,
première radio de France.